Géopolitique. Ludovic Dunod.
Bonjour à tous. Le tourisme est à la peine ou à l'arrêt total selon les pays depuis que nous vivons avec la pandémie de la Covid-19. Cette activité de loisirs et de dépaysement qui pousse des millions de personnes à voyager à l'étranger est l'une des plus florissantes, si ce n'est la plus florissante du globe. Elle concentre à elle seule 10% de l'activité mondiale. Et si depuis les années 50-60, elle se développe de façon exponentielle, elle est aussi anarchique et profondément inégalitaire. Elle concentre de plus en plus de critiques venant des populations, des pays d'accueil, comme de certains voyageurs qui se rendent compte que cela ne peut plus durer ainsi et qu'il faudrait qu'ils changent leur comportement. Mais le secteur économique du tourisme souhaite-t-il en faire autant? Alors, dans la période si particulière dans laquelle nous vivons, qui interroge nos modes de vie, nos envies, nos espoirs, nos enjeux et nos craintes pour le futur, le tourisme va-t-il se transformer? On parle tant du monde de demain ces temps-ci. Et surtout, les acteurs économiques du secteur touristique, les pays que l'on nomme des destinations dans le tourisme, tous ceux qui ont les moyens de voyager, veulent-ils s'engager dans une autre voie, dessiner une autre carte mondiale du tourisme? Car le tourisme, sujet protéiforme, complexe, éminemment complexe, a un impact géopolitique. Pour explorer tout cela ensemble dans les deux parties de Géopolitique cette semaine, j'ai réuni trois personnes attentives au monde touristique et qui finalement représentent les trois grands acteurs du secteur. Josette Siksik est journaliste, directrice de la lettre professionnelle d'information Touriscopie, spécialiste des comportements et tendances touristiques. On peut dire qu'elle apporte le point de vue des touristes, de ceux qui consomment cette industrie du dépaysement et du loisir. Elle a aussi créé avec le magazine professionnel en ligne Tourmag un groupe prospectif de professionnels du tourisme de tous bords qui s'appelle Demain le tourisme. Bonjour Josette.
Bonjour.
Jean-François Rial, vous êtes le président du groupe Voyageurs du Monde, un des principaux tour opérateurs français, spécialiste du voyage sur mesure et du voyage de randonnée et d'aventure. Vous êtes aussi vice-président du CETO, le syndicat français des tour opérateurs. Donc on va dire que vous représentez le secteur économique, ceux qui organisent et orchestrent le tourisme. Bonjour Jean-François.
Bonjour Ludovic.
Et puis Bernard Duterme, depuis la Belgique, vous êtes sociologue belge, donc directeur du CETRI, le centre tricontinental, un centre d'études installé à Louvain qui analyse les rapports Nord-Sud, les mouvements sociaux d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, et dont le tourisme est un des enjeux. Vous avez aussi dirigé dans la collection Alternative Sud le livre intitulé « La domination touristique, point de vue du Sud, point de vue au pluriel ». Bonjour.
Bonjour.
Et donc vous allez nous apporter le regard des populations des pays en voie de développement qui bien souvent accueillent ces touristes. Alors pour commencer, Jean-François Rial, le tourisme international est une affaire de déplacement, souvent sur de longues distances, donc en avion. Est-ce que l'arrêt de bien des lignes aériennes actuellement et la mise en danger de l'existence de certaines compagnies aériennes ne vont pas changer la carte des échanges touristiques internationaux de demain à cause d'une restructuration probable du secteur aérien ?
Je crois pas, parce qu'il va y avoir bien sûr des compagnies qui vont disparaître, des compagnies qui vont faire faillite, des compagnies qui vont réduire la voilure. Donc il y aura une période intermédiaire, il y aura un peu moins d'offres, c'est sûr, mais très rapidement ça reviendra. Je mettrai un seul bémol peut-être, c'est sur certaines lignes secondaires. Vous voyez, par exemple, vous avez des Bristol-Limoges ou ce genre de choses qui vont peut-être être un petit peu réduit tous des vols internationaux. Vous voyez, par exemple, Air France avait 18 escales sur la Chine, je crois. Ils vont passer à 5. Je suis pas sûr qu'on aura des vols Paris-Chongqing comme on avait auparavant. Mais, encore une fois, dès que l'activité va reprendre normalement, même si elle va changer probablement de nature, ce genre de problème va se régler. Et de toute façon, au pire, vous faites des connexions, mais vous faites... Donc, je crois pas, contrairement à certains de mes confrères qui le pensent, d'ailleurs... Je ne crois pas que l'écroulement de certaines compagnies aériennes va changer la nature du volume des échanges, parce que si vous avez une compagnie aérienne qui fait faillite, une autre se crée le lendemain pour la remplacer.
Et il y aura une incidence sur les prix, voilà. Par exemple, avec certaines classes sociales qui ne pourront plus voyager parce que les prix pourraient être plus élevés?
Oui, mais sauf que moi je pense que ça sera exactement l'inverse, c'est que je pense que les prix vont être plus bas. Parce que, et d'ailleurs on le voit bien, hein, dès qu'une destination réouvre sérieusement, les prix sont plus bas. Parce que on manque de clients, enfin les compagnies aériennes manquent de clients, manquent de business. Donc le yield management, hein, c'est cette histoire qui fait que le prix de votre billet d'avion dépend non pas de votre produit, mais du remplissage de l'avion au moment où vous réservez, va opérer plein feu et donc les prix, il n'est pas du tout sûr qu'ils soient plus hauts à court moyen terme. À long terme, je pense qu'ils le seront, mais pour d'autres raisons, pour des raisons écologiques qui sont nécessaires et aux changements qui sont nécessaires de faire dans cette industrie.
Josette Sixig, vous soulignez dans un de vos derniers articles que dorénavant, 57% des Français considèrent que leur mode de vie va se modifier. Alors, est-ce qu'ils vont changer ou changent déjà leur regard sur l'avion justement et sur les déplacements et peut-être la pollution que cela engendre ?
Bon, alors d'abord, c'est pas moi qui considère qu'il y a 57% des Français. C'est une étude de l'ADEME, une étude sur les utopies. Bon, on s'est aperçu effectivement que la sensibilité écologique grimpait régulièrement, ce qui est une bonne chose. Et en 2019, ce qu'ils appellent l'utopie écologique était passé à 57%, loin devant l'utopie sécuritaire qui était à une trentaine de pourcents et l'utopie technologique dans laquelle on avait beaucoup cru qui n'était plus qu'à 17-18%. Donc, effectivement, il y a cette sensibilité écologique qui croît, il y a l'anxiété écologique qui croît aussi, ça c'est quand même assez intéressant, les gens ont peur maintenant de faire mal quand ils ouvrent leur robinet, quand ils mettent leur ventilateur, quand ils prennent leur voiture, etc. Donc évidemment, sur l'avion, on leur a dit tellement de choses négatives qu'ils culpabilisent. Je ne dis pas qu'ils ont peur, mais là, ils culpabilisent par rapport à l'avion. Il y a eu aussi ces phénomènes et ces campagnes de honte de prendre l'avion qui ont été déclenchées dans les pays du Nord. Donc, il y a effectivement une interrogation par rapport à l'avion qui pourrait faire baisser le trafic aérien. Sauf que je suis d'accord avec Jean-François Rial, je ne crois pas que tout ça va changer. On n'allie pas forcément le geste à la parole ni à l'opinion. Je crois que ça continuera comme avant.
Bernard Duterme, les analyses du CETRI qui auscultent les rapports Nord-Sud sont critiques par rapport à l'expansion touristique. Vous parlez très clairement d'une domination, on va y revenir au cours de cette émission. Et vous soulignez notamment que les activités touristiques dépassent les capacités d'absorption de la planète. Il y a donc dans ces capacités d'absorption notamment les fameuses émissions de gaz à effet de serre. Et donc là aussi, le tourisme s'est développé de manière spectaculaire et a un impact là-dessus. Et vous n'êtes pas très optimiste, vous ?
Oui, en effet, l'expansion effrénée du tourisme international, qui croît d'environ 5% annuellement depuis 7 décennies maintenant, sans discontinuer, hormis cette année, donc, cette expansion effrénée hypothèque les capacités d'absorption écologique terrestre, et cette expansion met au grand jour l'impossible généralisation du modèle touristique dans ses formes dominantes. Rappelons que moins d'une personne sur 10, à l'échelle de l'humanité, c'est en réalité 7% de l'humanité, a accès au tourisme international aujourd'hui. Dans ses formes actuelles, donc le tourisme international participe activement à l'aggravation de la crise climatique, malgré les quelques efforts consentis ces dernières années. Son bilan carbone reste à la hausse, il ne cesse de croître. Et selon l'OMT, dans ses chiffres pour l'année 2019, pratiquement 60% des déplacements touristiques internationaux se font par voie aérienne. Et donc cette tendance est en hausse, hormis cette année, bien évidemment. Au-delà, donc, c'est tout l'impact environnemental de l'expansion de l'industrie touristique qui pose problème là où ces infrastructures s'implantent dans les pays du Sud, en termes de pression sur les terres, sur les ressources, des ressources souvent rares, l'accès à l'eau potable notamment. Donc, et ça sans même parler du passif environnemental désastreux du grand boom des croisières maritimes ces dernières années. Ces villes flottantes donc qui brûlent du carburant bien plus polluant que celui qu'on utilise sur Terre et qui produisent, comme vous le savez, des quantités ingérables de déchets. Donc il y a de fait, aux yeux du CETRI, mais aux yeux d'une série d'observateurs critiques, il y a de fait incompatibilité structurelle entre l'expansion du tourisme international dans ses formes actuelles et le règlement de la crise climatique et écologique en cours.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, ce qui pourrait peut-être changer la carte du tourisme international, ce sont les comportements des voyageurs. La crise de la Covid-19 a-t-elle modifié les attentes, les envies, les choix de ces consommateurs des loisirs et du dépaysement que sont les tourismes potentiels ? Josette Sixig, vous qui les regardez depuis si longtemps, ces touristes, hein.
Écoutez, c'est un peu complexe comme sujet. Bon, ce qu'il faut remarquer, c'est que les tendances comportementales qui existaient déjà, hein, donc l'écologie, on vient d'en parler, ont été exaspérées par la crise. Mais de là à être complètement révolutionnées, non. Et puis, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que ça a été comme le terrorisme. Sur le moment, effectivement, tout le monde est plein de bonnes intentions. On a envie de changer, on veut que le monde change. Donc, on prend des tas de résolutions. Et puis après, on les oublie. Donc là, on est à peu près dans la même situation. Moi, la seule chose qui m'a semblé très, très rassurante en termes de comportement, hein, et pas de pratique, c'est quand même la formidable mobilisation, la réflexion que cette crise a entraînée. Hein. Les gens, d'abord parce qu'ils étaient en télétravail, au chômage, etc., ont beaucoup réfléchi, ont fait preuve de beaucoup d'imagination, de beaucoup de créativité, et ont eu surtout l'impression, et ça me semble nouveau, que pour une fois, on pouvait peut-être, le citoyen allait peut-être pouvoir avoir un impact sur le politique et essayer de le faire un petit peu changer.
Jean-François Riel, les acteurs économiques du tourisme sont réputés pour être plutôt conservateurs et vous travaillez dans un secteur économique, donc les résultats économiques comptent avant tout. Mais y a-t-il une envie de prendre une autre voie ou par quel genre de pression une autre voie serait-elle prenable pour les acteurs économiques ?
Question très large, hein. J'ai écouté beaucoup, avec beaucoup, beaucoup d'intérêt ce que disait notre ami sociologue, qui a globalement raison, hein. C'est-à-dire que la croissance internationale du tourisme telle qu'elle est pratiquée à l'heure actuelle n'est pas compatible avec les objectifs écologiques de la planète, en commençant par le CO2, mais pas que. Alors, si vous voulez, c'est pas compliqué, si on considère que ces objectifs écologiques sont incontournables, eh bien, il faut qu'on pratique un tourisme qui soit compatible avec eux. C'est ce qu'on essaye, nous, de faire dans notre entreprise. Hein. Par exemple, on absorbe 100% des émissions de CO2 que nous émettons. On plante plus de 3 millions d'arbres, hein, par an chez nous. Mais on est un opérateur qui fait ça de façon marginale, dans le sens où l'ensemble de la chaîne globale de l'industrie touristique ne le fait pas ou ne le fait pas assez. Sachant que même si tout le monde le faisait, aujourd'hui on doit être les seuls à le faire à 100%, de toute façon il faudrait après derrière construire un argumentaire intellectuel pour justifier pourquoi ce que nous on appelle de l'absorption est acceptable dans notre secteur, parce que nous on n'est pas capable de faire une transition écologique en 30 ans sur le plan technologique. Ce n'est pas possible. Donc il y a deux solutions pour continuer à voyager. Soit vous considérez que ça a une vraie utilité sociale, économique, intellectuelle, culturelle, et vous mettez en place des outils qui vous permettent de continuer à voyager, soit vous considérez que non, que c'est définitivement pas utile, et dans ce cas-là, il faut interdire de voyager en avion. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, parce que les quotas ou ce genre de trucs, ça n'a pas beaucoup de sens, c'est ingérable, on va pas avoir des notes sociales comme en Chine. Donc la seule chose possible que je défends, moi, dans mon métier, c'est de pratiquer un développement touristique, un développement du voyage qui soit compatible avec les objectifs écologiques. Mais c'est vrai que je suis très 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 minoritaire dans mes métiers, que je suis perçu comme un ayatollah écologiste et un iconoclaste. Vous voyez, je crois pas du tout au changement des opérateurs. Je crois pas non plus au changement du comportement des touristes, sachant qu'il y a plein de types de touristes, hein, comme l'a très bien dit Josette tout à l'heure, on peut pas les qualifier d'un seul bloc, hein, ils vont pas tous devenir plus vertueux, plus écologistes, certains le sont, plus, etc. Mais tous ceux qui sont, je dirais, dans les vacances et dans le tourisme de masse, ils en sont à des années-lumière. Donc moi je crois pas au changement de la part ni des opérateurs ni des touristes, je crois au changement de la part des citoyens. Qui peut d'ailleurs être lui-même un consommateur de voyage d'ailleurs, mais il ne comporte pas de la même façon. Et les citoyens, bah, ils peuvent mettre en place à long terme des pouvoirs écologiques qui imposent des règles qui fassent que le tourisme soit compatible avec les enjeux globaux économiques de la planète. On a parlé du CO2, on peut parler des déchets, on peut parler de l'eau, tout ce genre de choses, il faut l'imposer. Et moi, je crois au pouvoir politique écologiste qui va mettre en place des règles qui feront que, par exemple, ce que nous faisons, nous, l'absorption intégrale du CO2 que nous émettons par la plantation d'arbres qui sont additionnels et pérennes, parce qu'il suffit pas de planter des arbres. Hein. Si vous plantez des arbres qui ont été plantés quand même, si vous plantez des arbres qui vont brûler, etc., etc. Tout ça ne suffit pas. Bon, ben, on peut en planter un certain nombre sur Terre qui peuvent permettre d'absorber les émissions de CO2 qu'on a fait. On peut le faire pour l'industrie aérienne. On peut le faire pour quelques secteurs qui ne peuvent pas faire la transition écologique en 30 ans pour être en carbone neutre d'ici 2050. Mais on peut pas le faire sur tous les secteurs économiques parce que ces secteurs économiques peuvent le faire autrement. Donc moi, je crois à ça. Je crois au pouvoir politique qui va mettre en place des règles écologiques, comme par exemple des taxes carbone très fortes, qui imposeront ce que nous on fait de façon volontaire, mais que ce soit de façon systématique. Parce qu'il n'y a pas que les entreprises économiques qui sont conservatrices. Vous pouvez pas savoir comment les clients sont conservateurs. Ils, comme l'a très bien dit Josette, ils veulent changer de comportement à cause du Covid, etc., etc., etc. Mais dès que le Covid va être fini, ils vont repartir comme en 40. La seule chose qui va changer un peu, probablement, c'est toute la billetterie à faire, parce que les entreprises se sont organisées pour baisser le nombre de voyages, de déplacements professionnels, et elles vont remettre un peu dans la machine, mais pas autant qu'avant, c'est évident. C'est évident. Ça permet de faire des économies, ça gagne du temps, et c'est bon pour la planète. Donc, elles vont pas se gêner. Donc là, je pense que la billetterie à faire va souffrir. Ça, c'est clair. Mais c'est pas le tourisme.
Bernard Duterme, il n'y a pas que les enjeux écologiques. Vous, vous soulignez dans vos études au CETRI à Louvain, en Belgique, qu'il y a de profondes inégalités dans le tourisme et que les pays du Sud n'ont pas les bénéfices qu'ils devraient avoir par rapport à l'impact qu'ils reçoivent de la part du tourisme. Et quand on entend Jean-François Rial faire des efforts qui sont réels, c'est ce qu'on peut lire dans vos textes quand vous dites que c'est une micro-solution à un macro-problème. Mais vous, vous soulignez d'autres inégalités et d'autres choses qu'il faudrait changer, parce que franchement, le compte n'y est pas pour les pays d'accueil, les pays en voie de développement.
Oui, de fait, dans ses formes dominantes, encore une fois, le tourisme accroît les disparités nord-sud. De multiples façons, on n'a pas le temps de les passer tout en revue, mais certes, le secteur génère des infrastructures, des emplois et d'importants bénéfices. Vraiment, c'est un très grand secteur de l'économie mondiale. Mais il produit également des coûts sociaux, des coûts environnementaux, des coûts culturels considérables. Et le tout est hélas réparti très inégalement. Les populations locales, dans les pays du Sud en particulier, souvent cantonnées à un rôle de décor humain, ne profite qu'à la marge ou exceptionnellement des bienfaits du tourisme. Comment expliquer sinon que l'essentiel des bénéfices échappe aux pays de destination, et la tendance est plus forte encore lorsqu'il s'agit de pays du Sud, de pays pauvres. Comment expliquer, là je me base sur des chiffres de la CNUSET, donc la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, comment expliquer que de 10 euros dépensés par un touriste pour un séjour en Afrique subsaharienne par exemple, 1, 2 ou au mieux 3 de ces 10 euros restent sur place. Comment expliquer, et là je me base sur le rapport de l'OMT pour l'année 2019, et ils ont mis ce résultat en exergue, comment expliquer que le pays qui aujourd'hui profite le plus du tourisme international par habitant soit le Grand-Duché de Luxembourg, je vous le donne en mille. Paradis non pas touristique mais paradis fiscal. Donc le tourisme international dans ses formes actuelles creuse les écarts par l'extrême concentration des bénéfices, des profits sur laquelle il repose, mais aussi par des effets d'éviction, de saturation, de vulnérabilisation des populations locales que le tourisme donc crée sur place. En clair, là où le tourisme international s'implante, l'accès au logement, à la terre, à l'eau, à l'électricité, en particulier dans les pays du Sud, hein, pour les populations locales, devient de plus en plus problématique, devient de plus en plus cher, devient de plus en plus compliqué. Surtout là, donc davantage là où le rapport objectif entre visiteurs et visités est le plus asymétrique.
Alors c'est un peu plus complexe aussi, parce qu'il peut y avoir également des apports d'infrastructures, d'électricité, d'assainissement d'eau, etc., grâce au tourisme, hein, des travaux qui profitent aux populations locales, même si elles ne sont pas employées dans le secteur. On va continuer à parler de tout cela dans la deuxième partie de l'émission, car c'est déjà la fin de la première partie de Géopolitique. On prend connaissance des dernières nouvelles du monde et on revient tous les quatre, mes invités et moi, après le journal.
Priorité. Géopolitique.
Ludovic Duneau.
C'est la seconde partie de Géopolitique. Avec la crise causée par la Covid-19, nous dirigeons-nous vers une nouvelle carte internationale du tourisme? Et avec quels équilibres? Pour en discuter, trois invités avec nous. Josette Sixig, directrice de la lettre professionnelle Touriscopie, spécialisée dans les tendances touristiques. Bernard Duterme, directeur du CETRI, le centre tricontinental basé à Louvain en Belgique, qui analyse les rapports Nord-Sud. Et puis Jean-François Rial, le président de Voyageurs du Monde, un des plus importants tour opérateurs. C'est un groupe qui regroupe plusieurs marques françaises du voyage, spécialisées dans le voyage sur mesure, la randonnée et l'aventure. Et vous avez certainement croisé des clients de ce groupe Voyageurs du Monde chez vous, si vous nous écoutez en Afrique subsaharienne, par exemple. Derrière le groupe Voyageurs du Monde, il y a aussi Comptoir des Voyages, Terre d'Aventure, Nomade, Désert, Alibert, entre autres. Ça vous parle surtout pour ceux qui sont habitués au tourisme de désert. Bernard Duterme, quand on lit les déclarations de l'Organisation Mondiale du Tourisme ces temps-ci à propos de la relance, l'agence onusienne appelle à une relance responsable. Mais derrière cet adjectif, il est surtout question de responsabilité sanitaire. Il faut tout faire pour accueillir les touristes selon les règles sanitaires en vigueur, afin de permettre à l'économie de reprendre. Il est bien question de l'économie au centre de tout ce secteur touristique. Vous ne partagez pas forcément la même définition de l'adjectif responsable. Pour vous, ça veut dire autre chose dans les rapports Nord-Sud. Et puis, dans cette vision touristique, on voit aussi qu'on pourrait parler d'un outil qui est mal connu du grand public. C'est l'indice de compétitivité touristique du Forum de Davos. Qu'est-ce que c'est ça?
J'y viens tout de suite. On aimerait croire que derrière ces appels à davantage de responsabilité, il y ait ces indispensables mesures de régulation publique qui réorganisent de fond en comble l'industrie touristique sur base d'une répartition plus équitable des avantages financiers et créatifs et des inconvénients sociaux, environnementaux, on les a passés en revue tout à l'heure, que le secteur crée. Hélas, les déclarations récentes de l'OMT en particulier n'en prennent pas la forme. Elles ont même tendance plutôt à s'aligner sur l'indice de compétitivité touristique qui a été mis sur pied, qui est tenu à jour par le Forum économique de Davos. C'est un indice qui classe tous les pays du monde selon leur touristicité, pour reprendre le vocabulaire utilisé, c'est-à-dire leur capacité d'attraction des investisseurs étrangers et des charters de touristes derrière. Je ne vous fais pas un dessin. Les critères sur lesquels repose cet indice du Forum de Davos renvoient d'abord, bien évidemment, aux capacités d'accueil des États locaux, du Sud en particulier, en termes d'infrastructures et de sécurité des touristes. Mais surtout, ces critères encouragent de facto, enfin même noir sur blanc, les pays du Sud, au moins 10 ans fiscal, au moins 10 ans environnemental et au moins 10 ans social. Cet indice du Forum de Davos constitue en soi, lisez-le vraiment, je n'invente rien, un appel à la dérégulation, en incitant à la création de zones franches, à la création d'un plan touristique affranchi de toute redevabilité, qu'elle soit fiscale, environnementale et sociale, encore une fois, en pays pauvres. Or, aujourd'hui, les préconisations de l'OMT, en effet, devraient prendre le sens exactement inverse, plutôt que de s'aligner sur les critères du Forum économique de Davos pour classer les pays en fonction de leur touristicité.
Vous aimeriez que, finalement, il y ait plus de régulation, des règles internationales plus strictes. Jean-François Rial nous en a aussi parlé, mais vous êtes très pessimiste à ce niveau-là.
Oui, parce que au-delà des déclarations remplies de belles intentions, on n'a pas l'impression que les décisions de l'OMT en prennent le chemin. Plus que jamais, on a besoin d'une organisation mondiale du tourisme. Mais là où cette OMT, qui est pourtant consciente des problèmes et des déséquilibres qu'on évoque, elle en est consciente, regardez ses travaux, mais donc là où cette OMT s'en tient à un rôle de promotion d'un tourisme qu'elle vend comme un moteur, comme un vecteur de développement, de paix et d'échanges harmonieux, elle devrait en réalité, à nos yeux, être investie d'un rôle de régulation, de contrôle, de répartition des coûts et des bénéfices sur un mode plus équitable, de limitation et de réagencement des flux. Le secteur, à nos yeux, a besoin d'appareils de réglementation nationaux et supranationaux qui le rendent, je sais que la mission est vaste, mais qui le rendent écologiquement viable et profitable, accessible à toutes et à tous, car ne l'oublions pas, je termine là-dessus, n'oublions pas le droit à la mobilité récréative, le droit au repos, le droit à quitter son territoire et à y revenir. Ces droits-là apparaissent noir sur blanc dans la Déclaration universelle des droits humains.
Josette Sixig, vous qui êtes journaliste spécialisée dans le tourisme, il y a déjà certains textes, le code d'éthique du tourisme, des chartes aussi. Les chartes souvent visent surtout les voyageurs plus que les voyagistes et le milieu professionnel, mais vous aussi vous trouvez que c'est insuffisant, que c'est trop dérégularisé tout cela?
Écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Duterme. Oui, effectivement, l'OMT qui pousse l'ensemble de la planète à s'adopter des règles plus strictes est quand même un pose problème. Mais il n'y a pas que l'OMT, tous les États se sont lancés dans la course aux touristes de plus, et c'est comme ça qu'on est arrivé à des chiffres absolument effrayants dans certains pays. La Grèce, qui est arrivée l'an dernier à 30 millions de touristes pour un petit pays dont la population est seulement de 10 millions et un pays qui est composé d'îles. Donc, il y a des chartes pour assurer, mais en même temps, dans les faits, le tourisme, c'est avant tout une machine économique qui doit fabriquer des touristes de plus, et tout ça, bien entendu, au détriment des populations locales dans certains pays, au détriment de l'écologie surtout, etc., etc. Donc, on est quand même en pleine contradiction, on est en pleine schizophrénie, hein, même. Quand vous voyez que le Costa Rica, par exemple, qui était la destination écolo par excellence, qui a été mise en avant sur la scène internationale par justement ces bonnes pratiques en matière écologique, et qui compte ses touristes et qui veut dire bon, on a été à 4,5 millions l'an dernier, il nous faut encore 10% de plus. Donc vous voyez, c'est comme ça un petit peu partout, et ça, je trouve que c'est grave. Et je suis contre le tourisme bashing. J'ai fait partie des gens qui ont attaqué le tourisme beaucoup. Maintenant, je me dis non, il faut arrêter quand même d'attaquer en permanence l'industrie touristique. Elle peut faire mieux, mais effectivement, elle ne peut pas faire mieux toute seule. Donc, il faut aussi qu'il y ait des États, il faut aussi qu'il y ait des citoyens qui m'aident, des opérateurs, etc.
Jean-François Rial, on a compris que vous souhaiteriez malgré tout de meilleures règles. On parle de l'Organisation mondiale du tourisme, une organisation onusienne, donc qui est au centre du multilatéralisme. Mais est-ce que finalement, c'est la bonne institution pour essayer de faire changer les choses ?
J'ai beaucoup de choses sur lesquelles je m'inscrirais un peu en contradiction à ce que je viens d'entendre. Plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a plein d'effets positifs du tourisme. Il faudrait quand même pas l'oublier, quoi. Il y a des choses négatives, je suis le premier à le dire, mais il y a plein de choses positives. Je peux vous dire qu'en Égypte, en ce moment, ils sont pas très contents de pas avoir beaucoup de touristes. Et donc, le tourisme a un vrai impact positif sur le plan social. Autant sur le plan environnemental, ça peut se discuter largement, autant sur le plan social, il y a beaucoup de choses à améliorer, il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a aussi beaucoup de choses positives. Ensuite, sur ces effets négatifs qui existent, l'OMT ne sert à rien. Si vous voulez, l'OMT n'a aucun pouvoir. Donc même si l'OMT faisait un discours parfait, ne se mettait pas en contradiction, comme notre ami sociologue vient de le dire, ça ne servirait à rien.
Alors ça doit passer par quel biais ? Ça doit passer par quel biais ?
Les États, bien sûr. C'est les États qui peuvent jouer à leur rôle. L'Union européenne, les États qui accueillent. À la limite, contrairement à ce qu'a dit Josette, encore, là, je vais aussi un peu la contredire. Moi, je m'en fiche que le Costa Rica, il veuille passer de 4,5 millions de touristes à 6 millions de touristes. C'est pas un problème, ça dépend comment il le fait. 95% des touristes vont dans 5% des endroits. Il suffirait que on les répartisse mieux. Donc, le problème, c'est pas le volume, c'est la façon dont on le fait et les conséquences sociales et écologiques. C'est très bien que le volume monte si ça génère plus d'emplois pour les pays d'accueil qui ont trop de gens au chômage. Excusez-moi, là, je suis pas du tout d'accord avec vous. Ça dépend de la nature de la croissance qu'on fait. Il y a de la bonne croissance, puis il y a de la mauvaise croissance. Il y a des pays, je vais pas les citer pour ne pas les insulter, mais qui ont très 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 peu de touristes et qui pratiquent un tourisme que je vais qualifier d'épouvantable sur le plan social. On attaque le tourisme en permanence pour ses effets écologiques, sociaux, environnementaux, etc., etc., etc. Mais en réalité, toutes les activités du monde entier, quelles qu'elles soient, ne pratiquent pas une régulation mondiale intelligente. On aimerait avoir une gouvernance mondiale qui protège les biens publics mondiaux. Bien sûr qu'on aimerait ça, mais ça n'existe pas. Et on va mettre du temps, hein, je peux vous dire, avec Trump et les Chinois et les Russes, ça va être compliqué, hein, de donner des pouvoirs à l'Organisation mondiale du tourisme. Donc c'est impossible. Donc la seule solution, c'est que les États, qui sont les seuls à pouvoir pondre des lois, prennent leurs responsabilités. Et pour ça, il faut passer par des pouvoirs qui sont plus sensibles à ces questions que d'autres. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Les Marocains et les Tunisiens qui ont 30% ou 40% de chômage, ils ont envie d'avoir plus de touristes. Hein. On peut les comprendre parce que c'est une activité qui est non délocalisable et qui est très très fortement pourvoyeuse en emploi. C'est pas complètement idiot de leur part. Simplement, ça dépend comment ils le font. S'ils le font en bétonnant leurs côtes, en bousillant l'eau, les nappes phréatiques, bon, c'est catastrophique. S'ils le font au contraire en répartissant de façon intelligente sur les territoire leur tourisme et en le faisant de façon positive, c'est pas gênant. Le tourisme, il produit le meilleur comme le pire.
Géopolitique, Ludovic Dunod.
On a évoqué dans cette émission le poids que peut prendre ou pourrait prendre les touristes eux-mêmes pour faire changer peut-être la carte du tourisme international dans les années qui viennent. Josette Sixic, vous qui regardez les comportements de tous ces touristes, c'est vrai que quelquefois ils peuvent être guidés par leurs idées politiques ou sociales, par d'autres comportements aussi, et ils peuvent peut-être agir effectivement sur les flux, sur la manière de voyager et sur les endroits où ils veulent voyager. On a parlé ces dernières années régulièrement, par exemple, de certains qui boycottaient la Birmanie pendant la dictature ou Cuba. Vous croyez-vous en ce pouvoir du touriste de faire changer la carte touristique par leur comportement et la manière dont ils voyagent ?
Moi, ma position, pour y avoir beaucoup réfléchi, c'est que, bon, si le boycott est organisé et qu'il a des chances d'être efficace, oui, c'est-à-dire organisé, ça veut dire que les tour opérateurs boycottent les compagnies aériennes et puis la politique étrangère d'un pays émetteur y participe, ok, on peut autant faire. C'est le cas, par exemple, des Maldives, ça pourrait être le cas de la Birmanie, enfin, il y a quelques pays
comme ça,
le Qatar, etc.
Quand vous dites c'est le cas des Maldives, ça pourrait être le cas des Maldives si jamais il y avait ce genre de boycott organisé, parce que les Maldives vivent essentiellement du tourisme. Donc là, il faudrait qu'ils fassent un pas en arrière pour sauver leur économie, leurs emplois et pour continuer à vivre. C'est ça que vous dites. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de boycott des Maldives.
Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de boycott organisé aujourd'hui. Et pour moi, le boycott, c'est seulement s'il est organisé qu'il peut être efficace. En revanche, un touriste qui a une conscience politique, il n'y en a pas tellement finalement, qui se dit non, moi j'irai pas dans la Turquie d'Erdogan ou j'irai pas dans l'Égypte d'Al-Sisi, c'est sa liberté la plus profonde, elle est tout à fait respectable. Mais après, il faut quand même savoir qu'il y a des populations qui ne sont pas forcément en accord avec leur gouvernement. Donc, boycotter un pays comme l'Amérique sous prétexte que Trump est absolument insupportable, c'est quand même embêtant parce que c'est pas tous les Américains ne suivent pas la politique de Trump. Boycotter Israël à cause du problème palestinien, il y a quand même 50% de démocrates dans ce pays. Donc, il y a des populations dans ces pays qui méritent d'être visitées, qui méritent de rencontrer des étrangers. Donc, vous voyez, c'est très difficile de traiter ce sujet du boycott et des consciences politiques des touristes de manière manichéenne.
De toute façon, on l'a bien compris dans cette émission, comme souvent quand il y a des émissions sur le tourisme, c'est un secteur protéiforme, très complexe, qui fait appel à différents secteurs, qui fait appel aussi aux émotions, à la psychologie, qui convoque tant de choses à un même endroit qu'on ne peut pas de toute façon être manichéen dans le tourisme et que chaque médaille a son revers dès qu'on parle d'un sujet touristique. Dans les manières de voyager qui pourraient peut-être changer les choses, il y a aussi le tourisme solidaire où on regarde un peu plus l'autre, même beaucoup plus l'autre, où on veut lui donner aussi plus de bénéfices par notre voyage, des bénéfices financiers notamment en allant directement chez les populations. Mais Bernard Duterme, dans La domination touristique, le livre que vous avez dirigé, où il est aussi question du tourisme solidaire, la chercheuse qui a fait l'article dit que malgré tout, là aussi il y a de la domination, consciente ou inconsciente, et que certains viennent aussi avec des présupposés néocoloniaux.
Oui, les auteurs du Sud, publiés donc dans cet ouvrage collectif du CETRI, ce sont les auteurs d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, qui parlent en connaissance de cause, ne sont effectivement pas tendres avec le tourisme solidaire, le tourisme humanitaire, le tourisme éthique responsable, etc. Toutes les appellations existent. Ce sont des tourismes remplis de bonnes intentions, certes, mais qui la plupart du temps, selon les analyses qu'en dressent donc les co-auteurs de cet ouvrage, ne sont le fait que de petits groupes d'Occidentaux aisés, instruits au-delà de la moyenne, en quête de voyages légitimes, pour le dire en une phrase, et qui méprisent d'ailleurs, en effet, le tourisme de masse. Ce sont donc des initiatives forcément marginales, non généralisables, très situées socialement, autorégulées, Et qui multiplie d'ailleurs les labels alternatifs en France comme en Belgique, il en existe beaucoup. Et initiative qui n'échappe d'ailleurs pas d'ailleurs à une forte récupération commerciale de la tendance, ni à leur dépendance inévitable aux, aux grandes compagnies aériennes. Depuis plus de 10 ans maintenant, on observe que la plupart des grands tours opérateurs ont ajouté un volet éthique, responsable, durable à leur catalogue.
Mais malgré tout, c'est un tourisme positif. Là, vous parliez de déséquilibre avant, on retombe sur quelque chose de plus équilibré dans l'échange.
Par ses intentions, en tous les cas, au mieux, ces initiatives, comme vous l'avez dit tout à l'heure, constituent une micro-solution, mais un micro-problème, et risquent de donner l'illusion à ses adeptes, qui sont extrêmement minoritaires par la force des choses et qui ne peuvent pas se généraliser, qui donnent l'illusion à ses adeptes que des choix de consommation personnelle peuvent renverser l'ordre des choses, peuvent renverser le modèle dominant du tourisme tel qu'il prévaut aujourd'hui et dont on a évoqué rapidement les effets sociaux et environnementaux problématiques.
Le temps file. Jean-François Rial, président du groupe Voyageurs du Monde. Donc pour vous, à l'issue de cette crise de la Covid, la carte du tourisme international sera à peu près celle que l'on connaissait avant cette pandémie ?
Oui, ça mettra juste le temps que les frontières se réouvrent, mais ça va pas changer grand-chose. Moi, ce que j'espère, c'est que ça va faire monter la conscience écologique dans la tête des gens.
Ça serait déjà
ça.
Pouvoir
mettre, pour mettre en place des pouvoirs politiques plus sensibles à l'environnement et qu'ils en découlent des politiques qui rendront le tourisme plus vertueux, sur le plan environnemental, mais pas que le tourisme.
Et sur le plan social, par rapport aux personnes qui travaillent dans les pays du Sud, on peut mieux équilibrer les choses aussi?
C'est pas l'endroit où c'est le pire. Il y a beaucoup de choses qui se passent bien sur le plan social dans le tourisme international. Je dirais même que le tourisme est plus vertueux que la moyenne des industries qui travaillent à l'export, même s'il y a des exceptions et des abus comme partout. Mais c'est pas là où moi je pense que le bât blesse le plus.
Josette Siksik, moi ce que je comprends aussi à travers toutes nos discussions aujourd'hui, c'est que le tourisme dans les pays industrialisés s'est développé très rapidement ces 50 dernières années sans qu'il y ait vraiment de pédagogie. C'est devenu un fait social, mais personne ne sait vraiment voyager. Est-ce qu'il faudrait pas aussi, pour faire une autre carte du tourisme avec de meilleurs équilibres entre le Nord et le Sud aussi, cette pédagogie ?
Oui, non, mais ça, c'est effectivement une question d'éducation, hein. Certains touristes, donc une fois de plus, on va répéter que le touriste est pluriel, qu'il est difficile de le considérer comme un bloc homogène, où tout le monde a les mêmes comportements. Donc, en ce qui concerne l'éducation, c'est pareil. C'est une industrie extrêmement complexe. C'est compliqué parce que c'est une foultitude d'opérateurs, des grands opérateurs et des petits opérateurs dont les problématiques sont très différentes. C'est du tourisme d'affaires et c'est du tourisme d'agrément, c'est du tourisme domestique.
Et on pourrait rajouter à quelques jours de l'ouverture du pèlerinage à la Mecque que c'est aussi du tourisme religieux et qu'il a un poids aussi.
Enfin voilà, on pourrait. Effectivement, donc on est dans un secteur très 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 compliqué qui nécessite effectivement d'être mieux compris par leurs clients, mais enfin en même temps, on en parle souvent très approximativement, on en parle mal, il y a pourtant de très bons bouquins qui font des bonnes analyses, donc c'est peut-être ça qu'il faudrait, peut-être recommander à chacun d'entre nous de bosser un peu quoi le sujet pour pouvoir prendre après des décisions adaptées.
Bon, alors pour bosser là-dessus, comme vous dites, nous, on va continuer à consacrer des émissions aux enjeux touristiques. Et puis, si vous intéressez aux questions touristiques, vous qui nous écoutez, vous pouvez retrouver les articles de Josette Siksik sur le net, notamment dans la revue professionnelle en ligne Tourmag, tourmag.com. Et puis, vous êtes nombreux à nous écouter dans les pays du Sud, notamment en Afrique. Donc, la domination touristique Point de vue, au pluriel Point de vue du Sud, dirigée par Bernard Duterme dans la collection Alternative Sud aux éditions Sileps peut-être vous intéresser. Donc lisez aussi, comme vient de vous le dire Josette, commencez par les livres, allez voir aussi un peu ce qu'il y a. Et puis vous pouvez aussi retrouver les analyses du CETRI sur le site du CETRI, cetri.be. Et nous, Géopolitique, nouveau rendez-vous, même lieu, même heure, la semaine prochaine.